Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. 400 ans avant la naissance du Christ, Socrate, le grand philosophe grec, a bu du poison et s'est allongé pour mourir. Vivrons-nous encore? Un ami lui a demandé. Le philosophe mourant ne pouvait que répondre, je l'espère, mais personne ne peut le savoir. Après que Walter Raleigh, le noble anglais, eut été décapité dans la tour de Londres, on a trouvé dans sa Bible ces lignes, écrites la veille de sa mort. Tel est le temps qui prend en confiance notre jeunesse, nos joies et tout ce que nous avons, et ne nous paye qu'avec de l'âge et de la poussière, qui, dans la tombe sombre et silencieuse, quand nous avons parcouru tous nos chemins, ferme l'histoire de nos jours. Mais de cette terre, de cette tombe, de cette poussière, mon Dieu me relèvera, j'espère. Y a-t-il une vie après la mort? Et dans l'affirmatif, comment serait cette vie? Comment pouvons-nous accéder à une vie après la mort? C'est certainement une des questions les plus importantes qui existent. Dieu le sait, et Dieu nous l'explique dans sa parole. Pourtant, peu de monde, même parmi les chrétiens aujourd'hui, peu de monde comprend ce que Dieu dit à propos de la vie après la mort et comment nous pouvons entrer. C'est en fait le sujet de la 20e croyance fondamentale de l'Église de Dieu, Association mondiale. Et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, le temps de ce sermon. Je vous lis donc cette croyance fondamentale. La résurrection d'entre les morts est le seul espoir de vie éternelle pour les êtres humains décédés. Les Écritures révèlent qu'il y aura trois périodes distinctes de résurrection future pour ceux qui sont morts. Au retour de Jésus-Christ, une première résurrection à la vie éternelle aura lieu pour les fidèles serviteurs de Dieu qui sont morts à travers les âges. Ces personnes sortiront de leur tombe et de pair avec des êtres humains vivants à ce moment-là, possédant le Saint-Esprit, seront transformés en êtres spirituels immortels. Après le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre, il y aura une seconde résurrection, à la vie physique, pour la majorité des êtres humains ayant jamais vécu. Ces personnes-là auront leur première et seule occasion d'entendre la vérité, de comprendre et de répondre à l'appel de Dieu. Si elles se convertissent, elles recevront la vie éternelle. Il y aura une troisième résurrection pour les incorrigibles à une brève période de conscience pendant laquelle ils recevront le juste jugement de Dieu, leur destruction dans les temps de feu. Cette résurrection est réservée à ceux qui ont rejeté l'offre du salut de Dieu, récoltant ainsi la mort éternelle, aussi appelée la seconde mort, à partir de laquelle il n'y a pas d'autre résurrection. Voilà la 20e croyance fondamentale et la dernière dans cette série de sermons, puisqu'il y a 20 croyances fondamentales qui sont énoncées par l'Église de Dieu Association mondiale. Alors, regardons aujourd'hui les résurrections dans la Bible et voyons, preuves à l'appui, ce que la Bible dit à propos de ces résurrections. Tout d'abord, dans Hébreux chapitre 6 et le verset 2, Hébreux 6, vous savez probablement, c'est là où nous avons quelques doctrines fondamentales de l'Église de Dieu. Dans Hébreux chapitre 6, nous allons commencer au verset 1, mais c'est surtout le verset 2 qui nous intéresse dans ce sujet particulier. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, donc ce sont des croyances fondamentales, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. C'est une des doctrines fondamentales de l'Église de Dieu, des chrétiens, de croire à la résurrection des morts. La plupart des chrétiens aujourd'hui ont une compréhension mitigée ou mélangée de ce qui vient après la vie. La plupart des chrétiens croient que l'âme immortelle monte au ciel pour être avec Dieu. Et donc, l'utilité d'une résurrection n'est pas vraiment très réelle pour ces personnes-là. Mais là, Dieu révèle dans la Bible, et cela depuis le début, depuis longtemps, que la vie après la mort vient par une résurrection, une de plusieurs résurrections. Par exemple, dans Daniel chapitre 12, si nous remontons à Daniel, Daniel chapitre 12, verset 2, Daniel a bien compris qu'il y aurait la résurrection des morts. Daniel chapitre 12, verset 2. En ce temps-là, le verset 1, en ce temps-là, c'est-à-dire au temps de la fin, nous l'avons déjà vu dans le chapitre précédent, dans ce temps-là, le temps de la fin, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel a bien compris qu'il y aurait la résurrection des morts, certains recevront la vie éternelle, et pour d'autres, ça serait une honte éternelle, non pas la souffrance pendant l'éternité, mais une honte, quand on pensera à eux, ça sera avec honte pour ces personnes-là, et cette honte durera pendant toute l'éternité. Dans Ésaïe chapitre 26, Ésaïe chapitre 26, nous avons une autre référence qui montre bien que c'est ce que les serviteurs de Dieu ont toujours compris quant à la vie après la mort. Ésaïe chapitre 26, verset 19. Ésaïe 26, verset 19. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux morts. Ésaïe a bien compris qu'il y aurait une résurrection des morts qui viendrait par la suite des temps. Et la Bible, comme nous avons déjà vu dans la croyance fondamentale, la Bible parle de plusieurs résurrections à des moments différents. La Bible parle de plusieurs. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre des passages bibliques qui parlent de ces trois résurrections, pour être sûr de bien comprendre ce que la Bible enseigne à ce sujet et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans l'avenir. Commençons dans Apocalypse chapitre 20, où il est question d'une première résurrection. Apocalypse chapitre 20, verset 4. Apocalypse chapitre 20, verset 4. On se tourne très souvent, on se réfère à Apocalypse 20 quand il est question des résurrections, parce que les trois sont mentionnés ici. Nous allons revenir tout à l'heure aussi, revoir ce que ce passage explique à propos des résurrections. Mais dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, nous lisons « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » Ça, c'est une phrase entre parenthèses. C'est la première résurrection. La première résurrection, ce sont ceux qui, au retour de Christ, vont ressusciter et vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera une résurrection à la vie éternelle. Ils vont revenir, c'est marqué, à la vie. Ils vont revenir à la vie éternelle. Et le simple fait qu'il est mentionné ici, c'est la première résurrection. C'est une indication claire qu'il n'y en a plus qu'une. Il y aura une autre, au moins une autre. Et en fait, la Bible va nous montrer qu'il y a trois résurrections en tout. Qui sera ressuscité? Bien, nous avons déjà lu ici ceux qui sont à Christ, mais regardons également 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, au son de la trompette. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les morts en Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont passés par le processus du salut, se sont repentis de leurs péchés, sont passés par les eaux du baptême, ont reçu le don du Saint-Esprit et se sont montrés fidèles à Dieu pendant toute leur vie. Ces gens-là, à Christ, ressusciteront dans cette première résurrection. Et si nous voulons remémorer qu'est-ce que ça veut dire être à Christ, c'est important de garder cela à l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est marqué que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour être à Christ, il faut avoir le don du Saint-Esprit. Et dans le même chapitre, Romains 8, verset 14, c'est aussi marqué « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Il faut avoir l'Esprit de Dieu et il faut se laisser conduire. Il faut suivre les indications qui nous sont données. Et l'espoir du chrétien, c'est cela, c'est la résurrection à la vie éternelle pour ceux qui appartiennent à Christ. L'apôtre Paul a assez longuement parlé de son espoir dans Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Paul explique quel était son espoir. Qu'est-ce qu'il espérait pour l'avenir? Philippiens, chapitre 3, verset 7. Paul dit: mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ce qui était important pour lui avant, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nouvelle priorité. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Si nous sommes conformes à la mort de Christ par le baptême, nous serons conformes aussi à sa résurrection. La puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conformes à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'était l'espoir de Paul. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette même pensée, nous aussi, nous devons porter le regard vers la résurrection à venir. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Là où Paul avait ses yeux fixés, c'était vers cette résurrection, à la vie éternelle, d'appartenir à Christ. Et tout comme il était conforme à la mort de Christ par le baptême, il allait être conforme à sa résurrection, à la vie éternelle également, au moment de son retour. L'espoir de Paul était bien la résurrection. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, a écrit à l'avance un épitaphe. Voilà ce qu'il a écrit, qu'il allait mettre sur sa pierre tombale. « Ici gît le corps de Benjamin Franklin. Imprimeur, comme la couverture d'un vieux livre, son contenu déchiré, ses lettres dorées enlevées. Mais l'œuvre elle-même ne sera pas perdue, car elle apparaîtra, comme elle l'a cru, dans une nouvelle et plus belle édition, corrigée et amendée par son auteur. » C'est une belle épitaphe. Il croyait à la résurrection des morts. Il comprenait, il connaissait la Bible, et il savait que c'est l'espoir pour les chrétiens, c'est la résurrection des morts. Cette première résurrection est appelée une meilleure résurrection dans Hébreux chapitre 11. Regardons Hébreux chapitre 11, verset 35. Hébreux chapitre 11, dans la liste des témoins de la foi. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 35. Parlant de ceux qui nous ont précédés dans la foi, des femmes recouvrèrent le mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. La première résurrection est appelée une meilleure résurrection. Pourquoi? Ceux qui ressuscitent à la deuxième résurrection pourront enfin accéder à la vie éternelle également. Mais pour ceux qui auront part à la première résurrection, ils vont pouvoir régner avec Christ pendant 1000 ans, alors que les autres morts seront inconscients en attendant de revenir à la vie. Nous aurons pour toute l'éternité le souvenir d'avoir aidé Jésus-Christ pendant le millénium à transformer le monde et à aider des milliards d'êtres humains à suivre le chemin qui va les amener vers la vie éternelle. Nous allons aider Jésus-Christ à faire du monde un paradis physique de nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela que la Bible appelle cette première résurrection une meilleure résurrection. Parce que nous n'allons manquer rien. Nous n'allons manquer à rien dans le monde à venir. Nous serons là pour le tout. Regardons également 1 Corinthiens chapitre 15, autre chapitre incontournable quand il est question de la première résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23 pour commencer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Verset 22, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, plusieurs résurrections. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Ça, c'est encore une fois la première résurrection. Et nous avons une description au verset 42, nous avons une description, les détails qui sont ajoutés à propos de cette résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant qui rend la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous aurons un corps spirituel, comme Jésus-Christ, et nous serons incorruptibles à partir de cette résurrection. Plus de douleur, plus de lunettes, plus de couverture dans le dos, plus de faiblesse, plus besoin de dormir. Nous n'aurons plus ni faim ni soif, jamais. Ça sera l'incorruptibilité. 1 Jean chapitre 3 verset 2 dit que nous serons semblables à lui. Les descriptions que nous lisons dans la Bible de Jésus-Christ, de Jésus-Christ glorieux, la gloire de Dieu, nous allons avoir une gloire semblable à cela. Ça, c'est la première résurrection. La résurrection à la vie éternelle, nous serons semblables à Dieu lorsque nous aurons part à cette première résurrection. Ceux qui croient à la résurrection parmi les chrétiens, tout le monde est d'accord qu'il y ait une première et qu'il y ait une dernière. C'est surtout la deuxième que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais parlons d'abord de la dernière résurrection, ce que nous appelons la troisième résurrection, des incorrigibles, comme nous l'avons lu dans l'énoncé des croyances. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 13. Apocalypse chapitre 20, verset 13. Nous avons ici la troisième, la dernière résurrection des incorrigibles. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. La seconde mort. Et on ne revient plus jamais de cette mort-là. La mort, c'est l'inconscience. Ceux qui sont jetés dans les temps de feu, ils vont brûler très rapidement et ça sera fini. Ils seront comme s'ils n'avaient jamais été. Auparavant, ils ne vont pas souffrir dans le feu pendant toute éternité. Quand la chair est jetée dans le feu, la chair brûle. Et ça sera fini. Ces personnes-là auront commis ce que nous appelons couramment le péché impardonnable. Ils refuseront de se repentir, et quand on ne se repent pas, on n'est pas pardonné. Et ils resteront donc incorrigibles, ils vont refuser de se corriger ou de permettre à Dieu de les corriger. Reportons-nous dans Hébreux chapitre 10, rappelons-nous ce qui est écrit là, Hébreux chapitre 10. Verset 25, Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ceux qui refusent de se corriger, qui refusent de se repentir devant Dieu, c'est ce qu'ils peuvent attendre. Ils vont attendre ce feu qui va les consumer. Nous avons une description intéressante également dans Ésaïe 65. Ça, c'est un passage que nous lisons peut-être moins souvent à propos de les sorties ou les issues de la vie. Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 11. Ésaïe 65, verset 11. Nous avons ici, en parallèle les serviteurs de Dieu et ceux qui refusent de servir Dieu. Et nous voyons les issues de ces existences. Ésaïe 65, verset 11. « Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Mini, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. » Il y aura un moment de reconnaissance juste avant d'aller dans le feu de la géhenne, et ils vont se rendre compte des mauvais choix qu'ils ont faits. Et il y aura de la douleur dans leur âme à ce moment-là. « Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. » Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus, le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Là, nous avons très certainement une référence à la période du jugement du grand tremblant. Nous allons y arriver tout à l'heure. Mais nous avons en parallèle ici les serviteurs de Dieu et ceux qui refuseront d'être serviteurs de Dieu. La vie des uns va terminer par la mort éternelle et des autres par la vie éternelle. Malachie chapitre 4, verset 3. Malachie 4, verset 3 dit « Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. » C'est ce qui va devenir les méchants. Ils vont devenir de la cendre. Ils seront brûlés, finis, on n'en parle plus. Et si on y pense, ça sera avec un sentiment de honte, comme nous avons déjà vu dans d'autres passages. Matthieu chapitre 13 également. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Autre façon de considérer la première et la dernière résurrection. On ne peut pas toujours distinguer extérieurement ce qui se passe dans la vie spirituelle de quelqu'un. On ne peut pas juger par l'apparence externe. Mais Dieu sait ce qui se passe dans le cœur. Et il explique, verset 36, il explique ce que ça veut dire. Il renvoya la foule, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront, comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Encore une fois, nous avons répété dans tous ces différents passages les deux issues qui sont possibles. Pour les justes, c'est la gloire pendant l'éternité, dans la famille divine, et pour les autres, c'est les temples de feu. Ils seront brûlés, et ce sera la fin. Dans Matthieu 25, nous avons une autre parabole qui ajoute encore d'autres détails à notre compréhension. Matthieu chapitre 25, verset 24. Matthieu chapitre 25, verset 24. C'est la parabole des talents, maintenant. Nous le connaissons, donc je vais simplement lire la signification de cette parabole. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Quelqu'un qui refuse de participer à ce que Dieu veut de lui. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. » Même la paresse peut créer des problèmes pour un chrétien. « Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ben, si tu pensais ça, alors il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt, au moins. Il faut un minimum. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura un châtiment éternel, la mort éternelle, c'est un châtiment éternel. L'explication de cette parabole-là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, il est question d'une ruine éternelle, c'est-à-dire le néant pendant toute l'éternité. C'est un châtiment éternel, le néant, mais ce n'est pas une souffrance éternelle. Ça, c'est la dernière, ou ce que nous appelons couramment la troisième résurrection. Et comme je vous ai dit, la plupart des chrétiens qui croient à une résurrection comprennent qu'il y en a au moins deux. La première pour des justes, appelée la première résurrection, et puis cette dernière qui est le feu de l'étang de feu. Maintenant, nous arrivons à la deuxième résurrection. Et la deuxième résurrection est celle que pratiquement personne parmi le grand église chrétienne, toute croyance confondue, même les gens qui croient à une résurrection ne comprennent pas cette deuxième résurrection. Et cela nécessite une attention particulière de notre part, parce que comme j'ai dit, pratiquement personne ne comprend pas ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2, en guise d'introduction à cette deuxième résurrection, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Alors, 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Je vais commencer au verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est le but de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est le but de l'Éternel. Si nous ne comprenons pas qu'il y ait une deuxième résurrection pour ceux qui n'ont jamais connu Dieu, eh bien, Dieu serait plutôt perdant. Parce que la vaste majorité des gens sur Terre ne sont pas chrétiens. Mais même si on accepte toutes les confessions comme étant chrétiennes, y a une minorité qui pourrait être sauvée. Alors que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, il a prévu un plan où il y aura finalement que très peu de gens qui seront perdus. Très peu qui vont rejeter ce que Dieu veut nous offrir, cette vie éternelle. Romains chapitre 3, verset 23, dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les êtres humains ont péché. Nous sommes tous pécheurs. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, nous lisons que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Chaque être humain est pécheur, mais la plupart l'ignorent. La plupart des gens ne comprennent pas cette idée de péché et le salaire du péché qui est la mort. Mais Dieu a prévu le moyen de payer cette amende à notre place pour nous ouvrir la voie vers la vie éternelle. Nous n'aurons plus à mourir à cause de nos péchés. Et nous trouvons dans Actes chapitre 4, verset 12, en parlant de Jésus-Christ, nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a que par Jésus-Christ et son sacrifice et sa vie en nous par l'Esprit de Dieu que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et que nous pouvons recevoir finalement la vie éternelle, le don gratuit de Dieu par Jésus-Christ. On ne peut pas y arriver dans aucune autre religion. On ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés et la vie éternelle étant musulman, bouddhiste, animiste, rien. Uniquement par Jésus-Christ, on peut recevoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire de tous ces gens? Ces milliards et milliards de personnes qui ont vécu sans entendre parler du nom de Jésus-Christ, sans comprendre la Bible, sans comprendre ce que Dieu nous dit à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il va faire de ces gens? Il veut sauver tout le monde. Alors Dieu a prévu un moment quand ces gens-là pourront être appelés par Dieu. Comme nous le lisons dans Jean chapitre 6, verset 44, passage que nous citons très souvent, Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » On ne peut pas se porter volontaire pour venir à Jésus-Christ. Dieu le Père doit opérer un miracle et nous attirer vers lui. Il doit retirer un voile spirituel pour nous permettre de voir clair, de comprendre ce qu'il nous offre. Et c'est ainsi que nous pouvons répondre à son appel et commencer ce processus du salut pour être sauvés et pour recevoir finalement la vie éternelle dans la famille divine. Dieu doit appeler. Et il a prévu une deuxième résurrection quand les gens qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais eu l'occasion de recevoir son offre, ils seront ressuscités à une vie physique et là, ils auront leur occasion de comprendre ce que Dieu veut leur offrir. Ils vont pouvoir comprendre la Bible, le voile sera retiré pour eux et ils vont pouvoir recevoir tout le bien que Dieu veut leur faire. Dans Matthieu chapitre 11, nous avons un passage qui nous explique que certains seront jugés plus sévèrement au moment de leur résurrection, à cause de ce qu'ils auront su ou ce qu'ils auront vu de leur vivant. Matthieu chapitre 11, verset 20. Matthieu chapitre 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie en prenant le sac et les cendres. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et vous, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras baissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Moins rigoureusement, ça veut dire qu'il doit avoir une autre période de vie. Si tous ces gens-là, si la seule issue c'est la vie éternelle ou la mort éternelle, ben, ils vont aller dans le feu et ce sera fini. Alors comment est-ce que quelques-uns pourraient être traités moins rigoureusement si tous finissent dans le feu? Justement, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une autre période de vie et certains reproches ou châtiments seront plus sévères à cause de le manque de foi de certaines de ces personnes. À la résurrection, la deuxième résurrection, à la vie physique, certains seront traités plus rigoureusement que d'autres à cause de ce qu'ils auront vu et compris pendant leur vie. Jean chapitre 5. Jean, l'évangile de Jean chapitre 5. Verset 28. Jean chapitre 5, verset 28. Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il y aura une période de jugement. Ils sont jugés pendant cette période-là. Ils vont ressusciter pour le jugement. Tout comme nous, en tant que chrétiens, tant qu'appelés par Dieu, nous sommes jugés actuellement pendant notre vie. Beaucoup de personnes pensent que le jugement, c'est simplement la sentence qui est rendue. Mais le jugement, c'est cette période d'essai qui dure toute une vie. Nous sommes jugés maintenant, comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le jugement commence sur la maison de Dieu. Nous sommes jugés jour après jour. Dieu nous met à l'épreuve. Il nous regarde pour voir le progrès que nous faisons, si nous sommes toujours soumis à sa volonté, si nous cherchons à lui plaire, si notre caractère se développe. Le jugement commence maintenant par la maison de Dieu, et ça va continuer ce jugement sur d'autres personnes quand ils seront ressuscités et quand ils vont pouvoir comprendre ce que Dieu veut d'eux. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 14, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une durée dans notre jugement. Nous devons persévérer dans la bonne voie tout au long de la vie pour pouvoir être sauvé. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. On aime bien croire, la plupart des églises aujourd'hui croient qu'une fois que vous avez donné votre cœur au Seigneur, que automatiquement vous ne pouvez pas perdre ce don que Dieu veut nous donner. Alors que la Bible nous montre qu'en fait c'est possible de perdre son salut si on abandonne. Ce n'est pas que Dieu va retirer quelque chose de nous, c'est que nous allons refuser de coopérer, de nous soumettre à ce que Dieu veut pour nous. Si nous abandonnons la bonne voie, nous pouvons perdre ce que nous avons. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. 1 Corinthiens chapitre 9, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Paul dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Parfois, quand nous expliquons que c'est possible pour un chrétien qui abandonne la bonne voie de perdre son salut, il y a des gens qui sont très fâchés d'imaginer que Dieu retire un bien qu'il a donné. Mais ce n'est pas, Dieu ne va pas le retirer subitement sur un coup de tête. C'est que uniquement quand le chrétien refuse, il change d'avis, il ne veut plus participer, il ne veut pas persévérer jusqu'à la fin. Dans ce cas-là, comme Paul l'a dit, on peut devenir désapprouvé par nos propres choix. Mais ce n'est pas une chose que Dieu va retirer subitement sans que nous ayons fait quoi que ce soit. C'est aux chrétiens de perdre ce que Dieu veut lui donner. Et nous voulons évidemment persévérer jusqu'à la fin et continuer sur ce bon chemin. Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11, où nous avons une description de cette deuxième résurrection. Apocalypse chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. » Nous comprenons que ces livres, c'est la Bible, qui est composée de beaucoup de livres différents. Et nous sommes jugés par nos œuvres selon ce qui est marqué dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous juge. Et tout comme le jugement commence par la maison de Dieu aujourd'hui, et nous sommes jugés tout au long de nos vies, eh bien, ces personnes-là, au moment de leur résurrection, leur esprit sera ouvert et ils auront leur occasion de passer par cette période de jugement, le jugement du grand trône blanc, comme nous l'appelons parfois. Ils auront, non pas, parfois on nous accuse d'enseigner qu'il y a une deuxième chance pour ces gens. Mais à la lumière des passages que nous avons déjà vus, si Dieu n'opère pas le miracle pour attirer quelqu'un vers son Fils, on ne peut pas venir à Dieu. Ce n'est pas une deuxième chance, c'est une première chance pour des personnes qui n'ont pas été appelées par Dieu auparavant. Nous n'enseignons pas qu'il y aura une deuxième chance. Nous enseignons que chaque être humain recevra une chance. Comment est-ce qu'on pourrait dire que quelqu'un qui a grandi en Asie ou en Afrique, du temps où on ne connaissait pas Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils ont eu leur occasion de connaître Dieu? Comment est-ce que la vaste majorité de l'humanité, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ont déjà eu une chance de connaître Dieu? Non, la vaste majorité n'ont jamais eu de chance. Ils ont besoin d'avoir leur chance, une occasion de connaître Dieu et d'accepter ce que Dieu veut leur donner. Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel 37, nous avons ici une description de à quoi sera l'air cette deuxième résurrection à la vie physique. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais, moi je ne sais pas. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis, leur ossement, desséchez, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Je vous donnerai des nerfs, faire croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Là, c'est une description de la résurrection à la vie physique d'Israël, la maison d'Israël, mais nous comprenons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il va donner cette occasion à tout le monde. Et nous avons déjà lu dans Ésaïe chapitre 65 qu'un enfant sera, un pécheur sera maudit à 100 ans, et l'enfant aura 100 ans pour vivre. Cela nous indique, ce passage dans Ésaïe 65, versets 20 et 21, que cette période du jugement durera probablement 100 ans. On ne peut pas dire avec 100% de certitude, mais cela semble le plus logique. Chaque être humain, ressuscité à la deuxième résurrection, aura l'occasion de vivre toute une vie et de faire la même chose que vous et moi, nous tâchons de faire maintenant, d'être fidèles à Dieu, de grandir dans son caractère et de nous soumettre entièrement à lui pour être conduits là où il veut nous amener. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La plupart des églises chrétiennes, dans le sens large aujourd'hui, ils ont un grand problème s'ils ne comprennent pas cette deuxième résurrection. Parce que faire de tous ceux qui n'ont jamais connu Dieu? Si les seuls issues, c'est la vie ou la mort, alors tous ces païens, tous ceux qui n'ont jamais connu Dieu, ou les enfants qui sont morts en bas âge, eh ben, ils vont devenir quoi? Il ne peut pas être sauvé que par le nom de Jésus-Christ, donc il faut qu'il y ait une occasion pour eux. Et c'est la meilleure nouvelle que nous puissions comprendre à propos de nos chers disparus qui n'ont jamais connu Dieu, ceux qui nous ont précédés, nos familles, nos aïeux. Eh bien, chaque être humain aura une occasion de connaître Dieu. Pas une deuxième chance, une chance. Mais Dieu garantira que chaque être humain aura une chance de recevoir, d'hériter ce que Dieu veut leur donner. C'est la meilleure nouvelle que nous puissions comprendre, frères et sœurs. Tout le monde, chaque être humain, aura l'occasion de connaître Dieu. Et ça, c'est une vérité que nous n'avons que à travers la parole de Dieu, la Bible. 15 ans avant sa mort, Mohandas Gandhi a écrit, « Je dois vous dire en toute humilité que l'hindouisme, comme je le connais, satisfait entièrement mon âme, remplit tout mon être, et j'y trouve un réconfort dans le Bhagavata et les Upanishads qui me manquent même dans le Sermon sur la montagne. » C'est ce qu'il a dit quand la mort était loin. Mais peu de temps avant sa mort, juste avant, il a écrit, « Mes jours sont comptés. Il est peu probable que je vive encore longtemps, peut-être une année ou un peu plus. » Pour la première fois depuis 50 ans, je me trouve dans les profondeurs de la déprime. Tout ce qui m'entoure n'est que ténèbres. Je prie pour la lumière. Ce qui m'avait réconforté quand la mort était loin, ne le réconfortait pas quand il était au seuil de la mort. Monsieur Gandhi avait besoin de l'Évangile, la bonne nouvelle qui sort de la Bible. L'humanité se demande ce qui vient après cette vie. Et les réponses des hommes que les hommes se sont imaginées ne satisfont pas vraiment. La seule chose qui peut satisfaire vraiment, c'est la vérité qui sort de la Bible. Cette vérité est merveilleusement encourageante. Chaque être humain, créé à l'image de Dieu, reçoit une occasion de connaître le vrai Dieu et d'hériter l'appartenance à la famille divine pour l'éternité, pour toujours. Dieu nous permet maintenant la lumière que Gandhi cherchait et qui ne trouvait pas au seuil de la mort. Nous devons garder cette lumière précieusement dans nos cœurs Et en tant qu'Église, nous devons continuer de prêcher à tous ceux qui accepteront d'écouter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle. Nous devons partager avec le monde entier, tant que nous pouvons, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et là, finalement, toute l'humanité comprendra la vérité de cette vie et ce qui peut venir après. Ça, c'est la vérité très encourageante des résurrections dans la Bible.